Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous parlons d'un sujet qui touche toutes les femmes, même celles qui n'ont pas ou plus d'enfants à la maison. Le thème d'aujourd'hui est la charge mentale, un défi de taille. Avec nous aujourd'hui, Caroline Lalande, auteure du coffret de cartes pour se libérer de la charge mentale, publié aux éditions de l'Homme. Et après la pause musicale, je m'entretiens avec la travailleuse sociale et auteure de l'essai « Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents » publié aux éditions Poètes de Brousse. Il s'agit d'Amélie Châteauneuf. À tout de suite.
Les hommes naissent libres et égaux en droit, mais ça dépend du lieu. Soit t'es ok, soit t'es KO, soit tu meurs bien, soit tu le vis mieux. C'est bien. C'est bien la raison du plus fort, encore et toujours la meilleure. C'est rien la raison du plus mort, ça donne raison au dictateur. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Des millions de gosses mangent de la viande juste quand ils se mordent la langue. C'est bien. C'est rien. C'est bien l'enfance de la détresse dans les pays de la guerre civile. C'est rien qu'une affaire de business si c'est des armes qu'on leur refile. C'est bien. Et on génocide au soleil à la faute à qui on savait pas. Vu que si les murs n'ont pas d'oreilles, l'Occident n'a qu'une caméra. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Et c'est en direct qu'on peut voir la suite de Nuit et brouillard. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants du tiers-monde. Et si le progrès se fait la course, c'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Quand la mort est cotée en bourse, c'est bien. La médecine fait des pas de géant et le sida recule en bloc. Seulement les poules auront des dents avant que l'Afrique ait des médocs. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Ça régule les natalités. C'est plus de faim qu'ils vont crever. C'est bien, c'est rien. C'est bien les gamins de la guerre, un pendu 10 de réprouver. C'est rien que des gamins militaires, tirera bien qui tirera le dernier. C'est bien. On fabrique des tueurs à la chaîne, jouer aux petits soldats de 10 ans. Et puisque l'horreur est humaine, la guerre n'est plus qu'un jeu d'enfant. C'est rien. C'est comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Un gosse, on viole sa mère, on file des armes à son petit frère. C'est bien. C'est rien. C'est bien des mômes, c'est des forçats. Du fond des mines, c'est des bagnards. C'est rien que des mômes qu'on forcera à se prostituer pour 3 $. La saloperie se dépayse. Pédophilie ou exotisme au moins. Ça rapporte des devises, sexuelles ou pas. C'est du tourisme. Et pas autrement. Merci papa, merci maman. La vérité, c'est que c'est l'argent qui sort de la bouche des enfants. C'est bien. C'est rien. C'est rien que les enfants de l'inceste. C'est rien que les enfants du mépris. Y'a qu'à pleurer sur ce qu'il en reste. C'est plus que les enfants du gâchis. C'est bien. Et l'enfant dodo, l'enfant morte, celle que je t'aimais, pourquoi faire. Dont l'enfant donne ce que je porte moi. C'est l'enfance de la colère. Comme ça et pas autrement. Merci papa, merci maman. Si je suis venue au monde de fou. Merci papa, merci pour tout. C'est bien. C'est rien. C'est bon. C'est non.
Merci maman, merci papa. C'était Agnès Bill. Ce qui nous amène dans le thème, au centre de notre thème d'aujourd'hui. Donc bonjour Amélie Châteauneuf. Bienvenue à Terre bonjour. De Femmes.
Merci.
Vous êtes travailleuse sociale et auteur d'un essai très éducatif, « Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents ». Alors, j'adore votre titre, c'est absolument, moi je voudrais dire, ça a l'air un peu décapant, c'est rigolo, il y a de l'humour, mais l'essai est extraordinaire. Félicitations!
Merci beaucoup, c'est gentil, merci.
J'aurais aimé lire ça quand ma fille était plus jeune.
Alors, oui, c'est ce que plusieurs plusieurs femmes me disent.
Oui, c'est ça, fallait y penser. Écoutez, vous vous traitez à travers, par le biais de l'inégalité, on s'entend dans le couple, vous parlez de la charge mentale. Comment l'idée vous est venue?
Bien, en fait, moi, je pensais que c'était quand même assez réglé, là, avant de fonder une famille, que c'était assez réglé les inégalités hommes-femmes dans le travail non rémunéré, dans la charge mentale. Mais en fait, quand j'ai eu ma propre famille, que je travaillais à temps plein, j'ai vu qu'il y avait quand même des inégalités dans mon propre couple, puis je me suis mis à regarder autour de moi, j'ai constaté la même chose, et là, je me suis dit, comme la plupart des problèmes individuels ou de couple qu'on vit, souvent c'est lié à une inégalité plus globale. Donc, comme travailleuse sociale, je me suis dit, je vais faire des recherches sur est-ce que c'est un problème social qu'on a, le problème que je vis, est-ce qu'il est lié avec des choses qu'on vit dans notre société. Et c'est là que j'ai découvert que, ben, dans le fond, j'en étais consciente instinctivement, mais j'ai vu que il y avait beaucoup d'inégalités encore dans la répartition du travail non rémunéré, que ce soit au Québec, mais dans tous les pays du monde. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire sur ce sujet, parce que je me suis dit, il y a encore beaucoup d'inégalités, puis je trouve que c'est important de traiter ce sujet-là aussi de manière globale et non comme un problème vécu par chaque couple individuellement, mais comme un problème de société.
Oui. Oui. Et la charge mentale, vous la définissez comment? Vous faites quand même une différence, et puis avec raison, de la charge des tâches.
Oui, c'est ça. En fait, le travail non rémunéré, il y a le travail plutôt comme d'entretien ménager ou que j'appelle d'exécution. On nettoie quelque chose, on répare quelque chose, on s'occupe des enfants. Donc ça, il y a de plus en plus de partage au niveau de ces tâches concrètes-là. On voit aussi que la génération de pères, qui est en fait ma génération, moi j'ai 40 ans, et les plus jeunes, là, il y a une grosse implication au niveau des enfants, au niveau de leur quotidien. Mais ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de la charge mentale, ce qui est comme toute la gestion et la planification, qui est aussi une tâche et qui demande beaucoup de travail non rémunéré. Et c'est très invisible parce que c'est pas quelque chose qu'on voit. Quand quelqu'un fait la vaisselle, on le voit. Oui. Mais quand quelqu'un réfléchit, par exemple, à la fête du petit s'en vient, il faut envoyer des cartons d'invitation, il faut faire le gâteau, où est-ce qu'on va l'acheter, quels ingrédients, tout ça. Bien, ce genre de choses-là, ça s'accumule. Les vaccins, le dentiste, les camps d'été, donc tout ce qui est en lien, que ce soit non seulement avec les enfants, mais aussi par rapport, par exemple, si un couple déménage, se marie, des choses comme ça. Tout ce qui est l'organisation, la gestion, c'est ça dont on parle quand on parle de charge mentale. Mm-hmm. C'est un travail qui n'est pas rémunéré dans la famille, mais qui peut être rémunéré dans notre société, comme par exemple si on pense à des organisateurs d'événements qui sont chargés là, d'organiser, par exemple, un mariage ou les coordonnateurs d'organismes communautaires. Moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup à la tâche de charge mentale qu'une personne va avoir dans sa famille.
Oui, je comprends. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toutes les images, toutes les métaphores que vous utilisez, comme vous parlez du ressort. Donc, c'est vrai que nous, les femmes, on s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève, on voit, en fait, que l'enfant n'a plus d'eau ou qu'il veut de l'eau. Donc, vous dites, on peut déléguer, en fait, on peut déléguer des choses, on peut déléguer, mais on ne peut pas déléguer l'initiative. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est en fait, la femme voit, mais l'homme ne voit pas nécessairement. Et c'est là que ça devient compliqué.
C'est ça. Bien, c'est une question de socialisation. En fait, nous, dans mon livre, je dis aussi, on n'est pas nés comme ça avec ce ressort-là. C'est qu'en fait, ils ont analysé aussi, par exemple, beaucoup de dessins animés pour enfants, puis ils se sont rendus compte que la majorité, par exemple, des personnages féminins, leur rôle, c'était notamment de prendre soin des autres. Donc, c'est sûr que au niveau de ce prendre soin-là, de cette gestion-là de l'unité familiale qui est beaucoup comme une du care, oui, c'est sûr que ça vient avec beaucoup d'initiatives ça nous a été inculqué aussi que c'était notre rôle de penser à ça, de s'occuper de ça. Donc, c'est des choses qu'on a appris avec le temps. Mmh. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui peut, tout le monde peut apprendre ça, tout le monde peut commencer à le faire. Il s'agit simplement à ce moment-là d'en discuter. Puis, il faut que la personne, les deux membres du couple puissent avoir ce que j'appelle la vue d'ensemble de la famille. Donc, c'est pas, par exemple, une des deux personnes qui est le plus souvent la femme qui gère l'agenda, le calendrier de planification familiale, puis qui délègue des choses au jour le jours à son conjoint. Mm-hmm. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que si on veut une égalité, pardon, à ce niveau-là, il faut que les deux personnes aient des responsabilités, des dossiers. Donc, par exemple, si on dit, OK, ben moi, je m'occupe du dossier santé des enfants, toi, tu t'occupes du dossier école, c'est un exemple.
Oui.
Dans le fond, on peut se diviser, toi, tu t'occupes des vêtements d'été, moi, je m'occupe des vêtements d'hiver. Donc, la personne sait, OK, c'est moi qui m'occupe des vêtements d'hiver. Ben là, si les bottes font plus, c'est moi qu'il faut qu'il aille en chercher, sinon personne d'autre va le faire. Donc, on ne s'appuie pas sur l'autre personne. Puis mm-hmm. ça, on peut voir ça aussi dans les couples qui n'ont pas d'enfants. Il y a souvent une dynamique comme ça où c'est encore une fois les femmes qui s'occupent le plus de la gestion là, de la maisonnée. Donc, ça peut être utilisé par tous les couples là, comme de donner des responsabilités plutôt que des tâches au jour le jour.
Oui, je comprends. Et c'est intéressant parce que vous dites, premièrement, il faut que la femme prenne conscience qu'elle en fait plus, puis on s'entend que pas seulement sur le plan ménager et physique et de choses que l'on voit, mais que la femme en fait plus au niveau de la gestion de tout ce qu'on ne voit pas. Il faut que la femme en prenne conscience et il faut que l'homme soit capable aussi de reconnaître que la situation, elle est comme ça et que pour que ça change, il faut que les deux soient d'accord.
Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, dans mon livre, je dis pas non plus que les hommes se pognent le beigne, là. Parce qu'en fait, ce qui est analysé, par exemple, par l'Organisation internationale du travail, c'est que dans le monde, puis c'est la même chose au Canada, au Québec, les hommes font plus de travail rémunéré, donc ils sont payés pour le faire, et les femmes font plus de travail non rémunéré. Ils vont travailler un nombre assez semblable de temps. Au Canada, on parle d'une différence de 30 minutes par jour. Les femmes vont avoir 30 minutes de temps libre de moins que les hommes par jour en moyenne. Mais sinon, au niveau du temps de travail, 30 minutes, c'est quand même beaucoup, là. C'est plus de 10 000 minutes par année. Mais si on regarde ça, ce que je dis en fait dans mon livre, c'est que c'est au niveau du travail non rémunéré, donc qui n'est pas payé, qui inclut la charge mentale, que les femmes en font plus. Et à ce moment-là, il faut que ce soit reconnu. C'est pas comme une attaque, là. C'est pas comme une critique, c'est vraiment un état de fait que nous, on travaille autant, sinon plus, on a moins de temps libre, mais on est moins payé pour le faire. Donc, on a moins de sous, de retraite, tout ça.
Oui.
Et si on veut que les femmes puissent avoir plus de travail rémunéré ou puissent plus s'impliquer aussi dans leur... puissent avoir le temps d'avoir plus de responsabilités dans leur carrière et ne soient pas exclus non plus de certains domaines, bien, il faut à ce moment-là se diviser ce travail-là. Mais il faut que les deux personnes reconnaissent ça, que ce travail-là est divisé comme ça dans le couple, puis que c'est aussi une conséquence sociale, là, que c'est pas comme... le problème de deux personnes comme individus, mais bien plus comme un problème social. Puis quand on le voit comme ça, c'est sûr que je trouve que ça amène une discussion plus saine que de se dire « Ah, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça ». C'est pas ça dont les questions,
ouais,
c'est vraiment comment la société a un impact sur notre couple, parce qu'il y en a sur tout, il y en a sur les finances, il y en a sur plein de choses, il y en a sur les revenus de retraite, j'en parle aussi dans mon livre. Donc, c'est important d'en discuter un peu de cette façon-là, puis de reconnaître que il y a des changements qui doivent être faits si on veut atteindre l'égalité, c'est encore à travailler.
Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Restez avec nous. Après la pause, il y a Caroline Lalande qui va se joindre à la discussion et on va commencer en parlant justement de la vie de couple parce que ça l'affecte, la vie de couple, cette surcharge-là. À tout de suite.
À tout de suite.
Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé. On annonce un été de canadaire, de ciel embrasé de canadaire. Madame, monsieur, j'ai glissé. Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous. Dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup, j'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout, j'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays, me donner du pain, m'en faire don.
Bertrand Belin, glisser, redresser. Je suis en compagnie d'Amélie Châteauneuf, travailleuse sociale et auteure, et Caroline Lalande, qui est aussi auteure. Nous discutons de la charge mentale. Bonjour Caroline, qui vient de se joindre à nous.
Bonjour Marthe.
Alors, on a quitté la dernière, la dernière étape en parlant de la vie de couple. C'est vrai que quand les femmes sont fatiguées, c'est souvent là que ça éclate, c'est-à-dire que la femme n'en peut plus, elle est débordée et tout. Donc, quand on est fatigué, ben, veut pas, on est moins disponible, on est moins joyeuse, on est moins souriante. Alors, chez vous aussi, ça se passe comme ça, j'imagine.
Oui, tout à fait. Je pense que ça se passe comme ça pour la majorité des êtres humains, en fait. La fatigue peut prendre une part et puis nous empêcher ou nous enlever le goût de faire certaines choses. Quand on est mère de famille, quand on est une conjointe, la charge mentale peut arriver à un certain point à, oui, créer cette fatigue-là. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Ça m'est déjà arrivé de stationner l'auto puis de rester dans mon auto pendant plusieurs minutes. Okay. J'avais pas le goût de rentrer.
Okay.
Pas parce que j'aime pas mon monde, d'or. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint extraordinaire, trois superbes garçons. Mm-hmm. Mais cette journée-là, j'étais fatiguée. Oui. J'étais fatiguée, puis j'avais l'impression qu'il y avait une deuxième journée qui m'attendait à la maison et je n'étais pas prête.
On parle souvent de deuxième journée. Amélie Châteauneuf, qu'est-ce que vous dites sur ça?
Oui, bien, c'est sûr qu'on parle de la deuxième journée comme le deuxième chiffre, comme on dit. Mm-hmm. C'est sûr que, comme je disais tantôt, avec la charge mentale, c'est clair que ça a un impact aussi sur les temps libres et les femmes ont moins de temps libre que les hommes au Canada. Mais je pense aussi que ça, on parle de deuxième journée, mais ça empiète aussi sur le temps de travail parce que la charge mentale, souvent, moi, je me rappelle quand je travaillais à temps plein, sur l'heure du dîner, je faisais quand même des choses, des appels pour la famille, j'appelais les assurances, je faisais. Donc, ça empiète aussi au niveau du temps sur le travail rémunéré, souvent, malheureusement.
Est-ce que la femme, d'après vous, s'en aperçoit seulement lorsqu'elle a des enfants, puis avant, elle le voit pas, Amélie?
Ben, moi, dans mon cas, je l'ai vu avant, mais c'est juste que j'étais capable de gérer, de faire plus que ma part quand j'avais pas d'enfant, puis de travailler à temps plein, puis de rester en santé. Mais quand vient le temps d'avoir des enfants, que là, quand il y a une charge plus grande sur nous, qu'on doit faire le même nombre de temps de travail rémunéré et beaucoup plus de travail non rémunéré lié à la présence des enfants, et plus il y a d'enfants, plus j'ai de travail. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, quand on a un emploi qui est prenant puis qu'on a plus de travail non rémunéré à la maison que l'autre personne et que ça prend beaucoup de temps, et oui, ça, moi, je trouve que c'est à ce moment-là que ça a un impact sur la santé, mais je pense que je le voyais quand même avant d'avoir des enfants. Oui.
OK, ça a été un peu... Caroline, on le voit, on le sent, puis des fois, on ne veut pas en parler parce qu'on trouve ça compliqué. Puis on dit on n'a pas le temps, puis des fois on est trop fatigué. qu'est-ce que tu dis à ça?
Des fois
on va dire je vais le faire, parce que ça va aller plus vite que d'expliquer ou de le dire.
En fait, je pense que c'est une part du problème qu'on a. C'est que souvent c'est plus facile de le faire que de prendre le temps de reconnaître qu'est-ce qui se passe en nous. Ensuite, prendre le temps de l'identifier, de trouver des pistes de solutions, communiquer nos pistes de solutions. Donc, il y a tout un processus autour de ça et des fois, la fatigue fait que c'est en effet beaucoup plus simple de dire « tassez-vous, je m'en occupe
oui. »,
par exemple.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est une solution à long terme? Pas du tout.
Mm-hmm.
Mais sur le court terme, oui. Je donne souvent l'exemple quand les enfants étaient bébés. Bon, il y a toujours une période où ils font plus leur nuit.
Oui.
Et on le sait tous là, que la méthode du 5-10-15, on le laisse pleurer 5 minutes, on y va, 10 minutes, on y va... Ça fonctionne très bien.
Oui.
Ça prend à peu près 3 jours pour casser, à moins évidemment que l'enfant ait un souci là,
oui,
autre. Mais bon, ça prend à peu près 3 jours pour casser cette habitude-là. Mais c'est un peu le même principe. Puis quand son bébé est comme ça, ben, on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est tellement fatigué qu'on n'a pas le goût de se lever, puis de se recoucher, puis etc. C'est la même chose. Il faut le voir comme ça. Il faut le ramener à quelque chose de plus simple à aborder.
Mmh.
C'est-à-dire que oui, on est fatigué, mais on doit le prendre bouchée par bouchée et on doit se donner la chance d'essayer de trouver une solution.
Et Amélie, qu'est-ce qu'on dit à notre conjoint? On aborde ça comment? Je suis fatiguée, je fais des choses qui ne paraissent pas. Comment on aborde ça? Puis qu'est-ce qu'on fait quand le conjoint est un peu réfractaire puis il dit non, j'en fais autant que toi, tu sais...
Ben, en fait, moi, ce que je dis aussi, ce que je pense, puis ce que je dis dans mon livre, c'est que les conjoints devraient prendre plus de responsabilité d'aborder ce sujet-là, parce que là, les femmes, en fait, sont celles qui vivent l'inégalité, qui font plus de travail non rémunéré pour lequel elles sont pas payées. Puis, on leur demande aussi d'être celles qui règlent ce problème-là en prenant la charge d'organiser la discussion, de planifier comment ça va se faire, cette transition-là de charge mentale. Donc, je pense que on pourrait aussi s'attendre à ce que les hommes comme groupe social entendre cette discussion-là puis travaille pour changer les choses.
Oui.
En attendant, je suis consciente que ça ne sera pas demain matin que ça va être fait. Mais je pense que quand même, oui, ça peut être abordé, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, moi, je pense que ça peut être abordé d'une façon à faire le lien avec les inégalités sociales. On peut aussi, je pense, donner des exemples. J'en parle dans mon livre. Je fais des listes un peu d'exemples là, de planification puis de gestion de tâches. Donc, on peut aussi prendre un outil comme mon livre où il y a des listes de tâches sur Internet, puis regarder ensemble, s'asseoir comme famille quand on a du temps puis que tout le monde va bien, de dire, ben qui fait quoi dans notre famille? Combien de temps? Parce que souvent, on remarque que les hommes et les femmes ont le même nombre de tâches à la maison, mais que les tâches des femmes sont beaucoup plus récurrentes au quotidien, beaucoup plus chronophages, donc demandent beaucoup plus de temps et reviennent beaucoup plus souvent.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que si on se dit, ben moi puis toi, on a le même nombre de tâches, mais moi, mes tâches, ils prennent, je sais pas, moi, une moyenne de 3 heures par jour, puis toi, c'est 1h45, bien, on peut-tu s'en échanger? On peut-tu organiser ça d'une autre façon? Est-ce qu'on peut se dire que il y a des responsabilités qui vont être divisées, un peu comme une transition qu'on ferait sur le marché du travail? Ça peut être comme ça qu'on dit, parce que c'est du travail.
Oui, absolument.
Donc, laisser le temps aussi de que la personne apprenne ses nouveaux rôles, puis c'est ça. Je pense que ça peut être vraiment abordé de cette façon-là, à mon avis.
C'est très intéressant, parce que votre essai, c'est rare qu'on voit des outils puis des propositions de solutions dans un essai, puis dans le vôtre, il y en a, puis il y en a plein. En fait, j'aime bien, moi aussi, quand vous parlez justement de la fréquence, de la tâche, le temps et qui le fait, mais il y a aussi, est-ce une tâche essentielle ou pas? Ça, c'est intéressant de déterminer aussi la priorité de la tâche.
C'est ça, en fait, c'est qu'il y a des tâches qui sont essentielles pour les deux conjoints, il y en a d'autres que non, puis à ce moment-là, on n'est pas obligé de se mettre d'accord sur tout, mais il y a des choses sur lesquelles on n'aura pas le choix de le faire. Tu sais, je donne un exemple dans mon livre où si on veut que nos enfants aillent chez le dentiste, ben il faut qu'on se partage la tâche de prendre le rendez-vous, vérifier avec l'école, prendre un moment du travail. Si on veut que nos enfants soient vaccinés, c'est un exemple. T'sais, si on veut on veut pas manger au restaurant plus qu'une ou deux fois par semaine, ben il faut les planifier les repas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont des choses qu'on peut pas vraiment passer à côté. Alors, après ça, s'il y a d'autres choses qui peuvent être, je donne un exemple dans mon livre, si on veut que les enfants soient habillés vraiment brillants à Pâques, là, ben là, ça, c'est pas nécessairement une tâche essentielle, mais je pense que c'est pas de ça du tout dont les femmes parlent quand on parle des tâches qu'on veut se diviser. C'est qu'on veut se diviser ce qui est vraiment essentiel pour la famille, puis on peut s'entendre comme couple sur qu'est-ce qui est essentiel pour nous. Est-ce qu'on veut faire des rénovations, exemple? Est-ce qu'on veut une nouvelle maison ou pas? Est-ce qu'on veut... Mais tout ça, c'est comme des choses qu'on n'est pas obligé nécessairement de faire, mais il y a des choses de base que là, il faut vraiment se diviser parce que c'est les besoins fondamentaux de la famille.
Oui. Caroline Lalande, est-ce que tu as commencé? Tu délègues, en fait, tu as délégué, tu fais le partage avec ton mari. Est-ce que ça fonctionne bien au niveau de la charge mentale? Est-ce qu'il organise des choses?
Mais ça fonctionne de mieux en mieux.
OK, ça prend du temps.
Ça prend du temps. Puis faut dire aussi qu'on ne peut pas révolutionner tout. Rome ne s'est pas bâti en un jour. Faut laisser la chance aux coureurs. De mon côté, moi, ça a été plus une question de segmentation. Donc, on l'a mentionné un petit peu plus tôt. C'est de déterminer des départements, si on veut.
Oui.
Et puis là, à ce moment-là, ben, je dis à mon conjoint, maintenant, c'est ta responsabilité. Mais c'est de lui laisser le temps aussi de l'assimiler et d'accepter l'erreur.
Oui. Et il faut aussi admettre, je pense que vous entendez toutes les deux sur ça, il faut aussi vouloir déléguer, c'est-à-dire s'effacer, et aussi faire confiance, c'est-à-dire d'accepter que les choses ne soient pas faites comme nous, on les aurait faites ou comme on aimerait qu'elles soient faites, n'est-ce pas, Amélie?
Oui, c'est sûr. Ça, je pense en fait que les femmes, c'est un peu un mythe, je pense, qu'on dit qu'on veut que ça soit fait à notre façon. En fait, je pense que ce que les femmes veulent, c'est que ça soit fait déjà.
Oui, voilà.
Dans le sens que je veux que mon enfant il ait un lunch, là, puis je veux qu'il ait au moins un légume dedans, parce que sinon, ça va pas le faire après plusieurs jours, pas de légumes. Oui. Mais sinon, je suis pas du style caviar, là, tu sais, je peux
faire
vraiment vous un peu de base. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit fait, puis, tu sais, le dentiste, c'est une fois par année, c'est pas aux deux ans. Fait que c'est tous des exemples que je dis que je pense pas que les femmes, ils veulent que ce soit des choses extraordinaires, mais juste qu'il y ait que ce soit fait. À temps, en fait. Mais après ça, moi, je suis très contente quand les choses...
Quand c'est fait, simplement.
Sont faites. Oui, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Amélie Châteauneuf. Je rappelle, vous êtes travailleuse sociale et vous êtes auteure aussi de « Si nous sommes égaux, je suis la fée des dents ». C'est un livre, un essai que je recommande, publié au Poète de Brousse. Merci infiniment et restez avec nous. Après la pause,
merci,
on revient.
Au revoir.
Vous êtes toujours à Canal M, vous écoutez Terre de Femmes avec Marthe Saint-Laurent. Vous aimez nos émissions, vous pouvez les écouter sur le site de Canal M, sur vuesetvoix.com, sur marthesaintlaurent.com et en balado-diffusion. En deuxième partie de l'émission, l'auteur Caroline Lalande reste avec nous. De retour après la pause musicale. C'était Mara Tremblay, Les Aurores. Alors, de retour avec Caroline Lalande. Caroline, vous êtes l'auteur du coffret pour se libérer de la charge mentale, mais vous êtes aussi propriétaire et d'entreprise. Vous avez oui. votre propre entreprise et vous avez 3 enfants, dont un ado.
Oui, en fait, deux ados, 13, 14 et 10 ans.
Bon, ça bouge beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à déléguer à ton conjoint?
Je pense que tout ce qui a trait à l'école, à la santé des enfants, c'est très, très, très difficile de laisser aller.
Et pourquoi?
Je pense qu'on se sent responsable, on se sent premier répondant. Peut-être que certains l'ont moins. Je sais que chez moi, c'est viscéral. J'ai ce besoin-là d'être celle qu'on appelle si l'enfant se fait mal. Je suis celle qui veut aller vers mon garçon s'il y a quelque chose, etc. Donc, ce sentiment-là était très, très important chez moi. Et quand j'ai développé mon entreprise qui s'est mise à prendre beaucoup de temps, mais je me suis retrouvée souvent dans des situations où j'étais avec des clients et je n'étais pas capable de répondre.
Mm-hmm.
Et donc, on a discuté ensemble, William et moi, on en est venu à la conclusion que c'était plus simple si c'était lui le premier répondant oui. à l'école. Ah, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Encore aujourd'hui, je trouve ça difficile.
Ah oui?
Parce que...
J'imagine que c'est pas un manque de confiance.
Non, pas du tout. Mais c'est... Les hommes et les femmes sont foncièrement différents. Donc, juste dans les questions qu'ils vont poser. Donc, je donne un exemple. L'école appelle, votre garçon s'est frappé la tête. Bon, mon conjoint va demander « Est-ce qu'il va bien? » Parfait. Il réintègre la classe. Excellent. Merci. Au revoir. Okay. De mon côté, il m'appelle, il me dit « Bon, un tel s'est frappé la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé?
Okay.
Est-ce
ouais.
qu'il a mal à la tête? Mm-hmm. » Bon, moi, j'ai plein de questions que j'aurais posées
ben
à la
oui.
secrétaire.
Ben, moi aussi. Tu m'en parles, puis moi aussi.
C'est ça.
Est-ce que c'est parce qu'on a porté ces enfants-là qu'on est plus attachés puis qu'on pense qu'ils sont à nous puis qu'on sait mieux que le père?
Pourtant, moi, dans ma situation, j'avais une autre carrière dans le temps qui était en
oui,
cinéma.
Oui, qu'on a parlé d'ailleurs à Terre de Femmes.
Oui, et je suis retournée sur le marché du travail très rapidement. Mm-hmm. Donc, mon garçon avait à peine 3 mois et je retournais travailler. Donc, mon conjoint s'est vraiment, vraiment impliqué au niveau des premières années, des premiers mm-hmm. mois de vie. C'est lui qui a pris la majorité du congé parental. Choix que je ne regrette absolument pas parce que c'est vrai que ça développe une certaine relation avec les enfants. Mais je pense que foncièrement, on est assez différents. Et oui. ça, il faut l'accepter.
Mm-hmm. Et on accepte aussi, comme on disait tantôt, que ce ne soit pas fait à notre goût, que ce ne soit pas fait comme nous, on voudrait. Et Amélie disait, ben moi, ça ne me dérange pas autant que c'est fait. Donc, il faut apprendre à délester. Et je pense aussi qu'il y a peut-être une petite... ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que nous, les femmes, on a de la difficulté, on a la culpabilité très sensible, puis on a de la misère à prendre du temps hein, pour nous.
Tout à fait.
Donc, on essaie de, sans s'en apercevoir, on s'occupe. On occupe le temps et s'asseoir sur le canapé puis rien faire, c'est quand même un peu plus compliqué pour nous.
C'est extrêmement difficile. Puis oui, on culpabilise terriblement. Et un des problèmes qu'on a en couple, c'est que si notre conjoint se permet ça, bien là, on se dit, bien, qu'est-ce qu'il fait? Mm-hmm. Pourquoi il est assis si longtemps? Il oui. ne fait rien. Alors oui. qu'il pourrait faire, et là, la liste est longue.
Oui, 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 tout
Donc,
à
c'est,
fait.
Donc, c'est très difficile. Il faut vraiment accepter qu'on est foncièrement différent, et puis il faut lâcher prise. C'est extrêmement difficile, mais il faut lâcher prise. Puis quand on le fait, on se sent mieux. Mm-hmm. Des fois, moi, je m'en vais carrément dans le salon, je ferme la porte. J'ai la chance d'avoir un salon qui a une porte coulissante.
Oui.
Et là, je prends du temps pour moi, puis je me dis, peu importe ce qui arrive dans la maison, je lâche prise. Mm-hmm. Et c'est des moments que j'ai appris à apprécier avec le temps.
Ça, il faut faire attention que le lâcher prise, parce que justement, Amélie en parlait dans son essai. Elle disait qu'il y avait une blogueuse qui avait mis sur les réseaux sociaux, en fait, justement, elle parlait de la charge mentale. Puis elle dit il y avait plein de gens qui lui écrivaient, puis disaient ben lâche prise, comment ça fait que tu as choisi un homme qui? Puis elle dit ça revenait encore la responsabilité de la femme. Puis là, elle dit on lâche prise sur quoi? Tu sais, il y a quand même des choses, tu ne peux pas lâcher prise, tu sais, je veux dire. L'enfant a besoin de soins ou, tu sais, ça fait 2 heures qu'il se promène avec la couche pleine. Tu dis, je lâche prise, mais à un moment donné, c'est l'enfant. Il y a quand même des choses sur lesquelles tu ne peux pas lâcher prise. Donc,
c'est bien
vrai. Faut faire attention avec le mot lâcher prise.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'à la base, il faut avoir une bonne communication. On doit aussi accepter le conjoint qu'on a choisi.
Mm-hmm. Oui.
Donc, moi, je sais que je dis toujours, j'ai la chance d'avoir un conjoint extraordinaire qui fait, écoutez, moi, mon conjoint fait tous les soupers.
Oui.
Je trouve ça extraordinaire.
Oui, c'est fantastique. Je pense qu'il y a des femmes qui doivent vous devez nous envier à la maison. Chez nous, parce que moi aussi, mon conjoint fait à manger.
Oui, c'est ça. Mais je veux dire, bon, il y a autre chose. Mais il faut accepter la personne qu'on a choisie.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je vais vous donner un autre exemple. Bon, mon conjoint a un déficit de l'attention.
Mm-hmm.
Mes garçons ont un déficit de l'attention. Je me retrouve dans une maison avec 4 déficits de l'attention. Si vous saviez à quel point des fois,
ah oui.
Je trouve ça difficile. Mais en même temps, c'est beau. Il y a toujours un beau côté à la médaille. Donc, souvent, quand on est pris dans notre quotidien complètement submergé, il est difficile de voir le beau de la chose. Mais pour chaque chose qui nous dérange, souvent pour chaque défaut, il y a une belle qualité qui est associée. Donc, des fois, c'est de retrouver ça, de revoir ça.
Mm-hmm.
Puis c'est merveilleux quand on se met à la voir, mais quand on est dedans, des fois, c'est quasi impossible.
Puis qu'est-ce qu'on fait quand on établit comme ça des, j'allais dire des règles, mais on va dire un partage équitable dans les tâches? Et aussi dans les préoccupations, parce qu'on est toujours dans la charge mentale. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas glisser, pour ne pas retomber dans nos vieilles pantoufles, parce qu'on a quand même tout un passé hein, qui nous suit. Qu'est-ce qu'on fait?
En fait, il faut faire une prise de conscience régulière. Il n'y a pas autre chose que ça.
Mm-hmm.
Un, c'est de communiquer avec notre conjoint, de déléguer certains dossiers. Moi, j'appelle ça des dossiers. Et puis après, c'est de revenir. Puis s'il y a des choses qui ne sont pas faites selon nos standards, ben on peut en discuter.
Oui.
Mais à partir du moment où ce n'est pas notre dossier, c'est peut-être pas nous qui avons nécessairement le dernier mot. Et là, c'est ça. Des fois, il y a certaines choses qui sont plus vitales que d'autres,
oui.
Comme par exemple des rendez-vous chez le médecin, etc. Mais c'est ça, il faut accepter qu'il y en a d'autres qui le sont moins, même s'ils sont très importantes pour nous. Et si c'est un dossier finalement qui accroche trop,
oui.
Et qu'on est vraiment insatisfaite, bien, on a toujours le choix de dire, d'accord, je reprends ce dossier-là et en déléguer un autre.
Oui.
C'est vraiment pas facile, ça vient à force de communication, mais oui, ça demande une révision ponctuelle, un peu comme un travail.
Oui.
Je veux dire, on a des évaluations biannuelles,
oui.
Habituellement, avec notre employeur, c'est normal, mais on devrait avoir ça aussi. Et puis, si on compare une vie de couple, c'est beaucoup plus demandant à quelque part qu'un travail, on passe beaucoup plus d'heures à la, oui, maison qu'on peut en passer au travail, là, si, évidemment, si on inclut les heures de sommeil.
Oui.
Mais donc, on doit aussi se donner la chance de s'évaluer de façon ponctuelle et de façon positive.
Mm-hmm. Et est-ce que ça arrive parfois que c'est le conjoint qui dise « Hey, écoute, il me semble qu'on a qu'on est plus dans les règles comme on avait établi et tout. Il me semble que tu en fais plus que tu en faisais. Est-ce que ça, c'est... C'est possible ou c'est juste dans ma tête?
Non, ça arrive. Moi, je sais que ça arrive des fois quand j'essaie de me mêler de quelque chose qui n'est pas mon département.
Oui.
Je veux dire, ma tendre moitié me rappelle tout simplement que, écoute, je suis en charge ou je le suis pas.
OK, bon.
Et la première fois, j'étais un peu abasourdie, puis je me dis, mais bon, il avait raison.
Oui.
Il avait tout à fait raison. Il était dans ses droits, selon l'entente qu'on avait eue. Et donc, moi, j'ai appris à me dire, OK, je ne,
oui,
m'en mêle pas. Maintenant, s'il y a des choses qui me dérangent, on en discute.
Oui, oui.
Mais ça reste qu'il faut respecter les tâches qu'on s'est déléguées.
Mm-hmm. Et est-ce que ça dérange les enfants que ce soit plus maman qui vienne à l'école ou qui s'occupe de s'il y a des problèmes ou est-ce que ça dérange les enfants?
Des fois, oui. Fois, on aime mieux la touche maman, qui est une approche des fois peut-être plus douce. Par contre, des fois, non, parce que tout dépend. Je veux dire, le père amène un côté autre que la mère. Et je pense que les enfants sont des éternels satisfaits et insatisfaits.
Mm-hmm.
Donc, s'ils ont toujours la mère, ils vont vouloir le père. S'ils ont toujours le père, ils vont vouloir la mère. Donc, c'est toujours un petit peu de ramener ça dans l'équation puis de leur rappeler finalement qu'ils sont privilégiés parce qu'ils ont deux excellents parents.
Ben, écoutez, restez avec nous, Caroline Lalande, parce que c'est super intéressant. Et j'aimerais qu'on aille un peu, parce qu'on parlait beaucoup au début avec Amélie du fait que c'est du travail qui n'est pas rémunéré. Mm-hmm. Donc, c'est quand même encore les femmes, quand elles ne délèguent pas, qui écopent de ça. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de, finalement, le côté financier pour les femmes. Donc, restez avec nous. Pour l'instant, on écoute Charlotte Cardin. Passive, agressive.
Hallelujah, baby. We're no longer together. 'Cause there's a man on my arm, and your name's crossed on my heart forever. You are your actions, relations, and I don't have the patience or temper.
Nous sommes de retour avec Caroline Lalande, auteure du coffret de cartes pour se libérer de la charge mentale. Donc, Caroline, si on commençait la dernière partie de l'émission en se tirant une carte.
Oui, tout à fait.
Bon, ça, c'est toujours intéressant. Magnifique coffret publié aux éditions de l'Homme.
Oui, l'idée, en fait, était de... Des fois, il est parfois difficile de lire un guide d'un bout à l'autre. Donc, mm-hmm. les cartes, ça permet en fait de piger une carte puis de lire quelques paragraphes, tout simplement pouvoir y réfléchir pour la journée, donc sans nécessairement se bourrer la tête encore plus.
Puis les cartes, c'est formidable hein, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on tire toujours la bonne au bon moment, la bonne journée. Puis tout le monde dit « Hey, ça marche les cartes », mais oui, ça marche. Mais c'est comme, je ne sais pas comment ça fait pour fonctionner, mais ça fonctionne. Donc, alors, on sort une carte. Ah, conscientisation.
Conscientisation.
Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Caroline?
La carte de la conscientisation commence en disant « Prendre conscience de la charge dont vous êtes affublé est à la base même du processus de libération et de réconciliation que vous entamez. »
Bon, ben écoute, il y a sûrement des auditrices à la maison qui se reconnaissent là-dedans. On en tirera une autre un peu plus tard. Mais j'aimerais revenir, on parlait tantôt, on disait les finances. C'est vrai que quand la femme a la charge mentale, ben c'est souvent elle qui va prendre congé avant qu'on délègue. C'est elle qui va prendre congé si l'enfant est malade. Souvent, elle travaille à temps partiel. Il y a des études qui prouvent que les femmes souvent vont refuser des emplois plus prometteurs, avec plus d'exigences parce qu'il y a les enfants. Donc, au bout du compte, sur le plan financier, c'est elle qui paye la note.
Oui, définitivement, il y a un impact financier parce que des fois, on l'oublie parce qu'on est un petit peu dans notre idée là, féerique de l'image de la famille. Mais une famille, c'est un peu comme une mini-entreprise.
Mm-hmm.
Alors, cette entreprise-là qu'on gère, bien, elle demande beaucoup de notre temps et de notre espace cerveau. Moi, des fois, j'explique aux garçons, j'ai dit « Maman, elle a un disque dur, puis là, le disque dur, il s'en vient surchargé, donc tout prend plus de temps, tout est plus difficile à assimiler. » C'est un peu le même concept. Donc oui, d'avoir, par exemple, un emploi qui demande beaucoup au niveau mental, qui demande beaucoup de gestion, de préoccupations, etc., combiné avec la charge de la famille, peut être extrêmement difficile, et puis c'est ce qui peut faire que certaines mères de famille refusent tout simplement des promotions, en effet.
Et elles ne pensent pas à long terme, parce que c'est vrai que ça empiète sur, présentement, et ça empiète sur plus tard. Donc, rendues à la retraite, si elles ont travaillé moins, elles retirent moins.
Oui.
Et encore là, Statistique Canada prouve que les femmes rendues à l'âge de la retraite sont sous le seuil de pauvreté.
Oui, tout à fait. Mais c'est difficile parce que quand on dit souvent quand on est dedans, on a peu ou pas de perspective. Et c'est bien vrai.
Mm-hmm.
Je veux dire, je travaille en service financier, je rencontre des couples régulièrement, je regarde des états financiers, si on veut, là, personnels. Et souvent, ces questions-là, moi, je les pose à mes clients. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Si on regarde, par exemple, un couple non marié,
oui,
puis madame met sa carrière en veilleuse, bien, elle n'a pas de protection si jamais il arrivait quelque chose et
oui,
le couple tombait. Puis on sait que statistiquement, il y a énormément de séparations au Québec.
Oui.
Donc, ce sont des facteurs qui doivent être considérés. Mmh. Idéalement, discuter avant d'entamer une famille. Parce qu'une fois qu'on est bien établi dans nos façons de faire, c'est
oui,
difficile de changer les choses.
Je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Oui, mais on ne peut pas tout monnayer. » Mais c'est vrai qu'il faut commencer à penser comme ça parce qu'on donne tellement, puis c'est vrai qu'on n'est pas payé pour ça et on ne le voit pas. Et pendant que l'homme s'enrichit, se met de l'argent de côté et tout, et travaille, la femme, elle, s'appauvrit. Et comme tu disais, souvent, il y en a qui mettent leur carrière en veilleuse.
Oui. Si on regarde,
c'est dangereux.
Tout à fait. Si on regarde dans le milieu du travail, les gestionnaires sont généralement dans les mieux rémunérés.
Mm-hmm.
Alors qu'à la maison, le gestionnaire de la maisonnée n'est pas rémunéré pour son travail. C'est difficile, par contre, de dire, à son conjoint, par exemple, tu vas me payer tant, etc. Mais je pense qu'il doit y avoir des discussions. Il doit y avoir des mécanismes qui sont mis en place pour se protéger l'un l'autre et s'assurer de l'équité. Parce que si on ressent une inéquité,
mm-hmm,
inévitablement, la chicane s'en vient.
Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi la vie de couple qui Baudelaire et Amélie le soulevaient dans son essai. Elle disait, depuis qu'on a fait le partage, c'est sûr, j'ai plus de temps pour moi, je peux me reposer, je suis plus de bonne humeur, j'ai plus envie de faire des activités. Donc, en fait, c'est le couple aussi qui gagne.
Oui, tout à fait. Puis la famille aussi gagne parce que les enfants n'aiment pas voir leur mère qui est toujours en train de diriger, de chialer, toujours dans tous ses états.
Qui est fatiguée aussi.
Oui, leur mère qui reste stationnée.
Oui, c'est ça.
Rentrer,
tu
maman, que faisais-tu?
Tu ne voulais
pas rentrer.
Est-ce que tu l'aurais dit?
Oui. Oui, moi, je suis très ouverte avec les enfants.
Oui.
Moi, je pense que c'est important parce que la façon dont je vois ça, c'est que moi, j'ai 3 garçons.
Mm-hmm. Puis tu éduques des hommes,
oui,
pour plus tard.
Et
William aussi.
Oui, c'est ça. Donc, moi, je me dis, un jour, ce seront des conjoints, ce seront des pères de famille et je me dois de leur donner un bon exemple. Donc,
oui,
si je fais juste me contenter de ma situation, c'est très difficile d'enseigner à mes enfants de faire mieux. Donc, on leur dit toujours, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous fassiez mieux que nous, on a fait.
Oui.
Maintenant, voici certaines valeurs à respecter. Donc, la charge mentale, c'est quelque chose dont on parle souvent. Puis évidemment, j'ai écrit un livre, donc les garçons étaient très au courant de ce qui se passait.
Oui, 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 oui. Ben oui, parce que quand tu sortais, t'allais écrire, puis quand tu sortais, ça te ramenait dans ta réalité, puis ça te mettait un peu hors de toi.
Oui, parce que ce qui est drôle, en fait, d'écrire des cartes comme ça, c'est que, bon, on se base sur des mots, puis là, il y a un mot qui nous inspire. Et là, je partais sur le mot, je m'enfermais dans mon salon.
Oui.
Et j'écrivais, puis là, je partais sur le mot, puis là, je réfléchissais à ce que je vivais parce que c'était écrit non pas parce que j'ai des études dans la matière, mais vraiment instinct de mère.
Oui.
Donc, je partais sur un mot. Et puis là, si par exemple, je partais sur l'invisibilité, oui. exemple, qui est la carte où on se dit que parfois on se sent bien invisible dans notre famille parce que personne ne voit ce qu'on fait, eh bien là, j'étais dans ce mood-là, là, de que je suis invisible. Alors là, je sors, puis là, pouf, il arrive quelque chose, les enfants me font ressentir encore plus mon invisibilité, et ça y est, presto.
Mm-hmm. Et ça pète.
Oui. Mais ça pète jamais très fort dans mon cas, mais, oui. mais quand même. Je veux mm-hmm. dire, ils savent là, qu'à un moment donné, maman en a juste assez.
Et tu vois la différence, là, t'as un ado, tu vois la différence qu'il comprend ce qui se passe et j'imagine que tu le responsabilises aussi.
Oui, c'est très important, la responsabilisation. On parle beaucoup. Nos adolescents, souvent, ils veulent pas nécessairement nous parler, mais ils apprécient quand on leur parle. Hein. Puis, il faut laisser beaucoup de temps pour les écouter. Mais évidemment, la charge mentale et le fait qu'on a peut-être une relation qui est peut-être pas hors norme, mais qui n'est pas tout à fait ce que leurs amis vivent. De mm-hmm. un, on est encore ensemble et on partage beaucoup les responsabilités. Donc, je pense que ça amène des discussions avec les enfants qui sont très intéressantes.
Tu me disais avant l'émission que tu avais annulé la femme de ménage, ou vous aviez annulé la femme de ménage.
Oui, c'est ça.
Mais toi, et pourquoi? C'est quand même intriguant parce que quand on pense à déléguer, c'est la première affaire qu'on délègue le ménage.
Oui, tout à fait. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que vers la fin de l'année dernière, à un moment donné, les garçons me disent « Mais pourquoi Nancy ne fait pas nos lits? » Là, je suis restée bouche bée complètement. J'ai dit « Vous êtes privilégiée que Nancy mm-hmm. nettoie, etc. » Moi, en contrepartie, ce que je vous demande, c'est qu'elle puisse avoir l'espace de faire son travail.
Oui.
Et il y a toute une conversation qui s'est passée avec William et moi. On s'est rendu compte que finalement, nos trois garçons étaient un peu fainéants. Hein? Okay. Ils ne faisaient pas oui. grand-chose. Et donc, on s'est dit qu'une façon de faire, c'était justement d'arrêter la femme de ménage et puis de les responsabiliser. Et puis maintenant, la fin de semaine, une fin de semaine sur deux, c'est vraiment comme le gros ménage. Puis moi, je laisse faire.
Mm-hmm.
Donc, le principe est simple, par exemple, on a des tâches à accomplir. Le premier qui se met à la tâche peut bien choisir ce qu'il fait. Donc, vous comprendrez que ça va très vite.
Oui.
et puis moi, par contre, je repasse après. Puis, si ce n'est pas bien fait, on le refait ensemble. J'ai trouvé ça extrêmement difficile au début parce que j'ai l'impression que ça durait toute la journée.
Ah oui.
Parce que je devais refaire avec eux. Et j'ai réalisé quelque chose, c'est un apprentissage. Ce n'est pas inné. Ça.
De faire le ménage.
Non, pas du tout. Mm-hmm. Ce n'est pas inné, c'est un apprentissage. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Et surprenamment, les garçons se ramassent beaucoup plus. Parce qu'ils sont conscients que s'ils doivent ramasser avant de faire le ménage, mm-hmm. mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est une certaine responsabilisation. Et puis, je vous dirais que d'ici quelques années, j'ai bien l'intention de leur léguer complètement ce côté-là. Mm. Puis, ils s'arrangeront avec le département du ménage.
Bon, bien, vous êtes en train, William et toi, de créer trois hommes responsables qui vont être capables de prendre une partie de la charge mentale.
C'est mon objectif.
Merci beaucoup, Caroline Lalande. Ça a été un plaisir.
Merci.
Donc, auteur de « Pour se libérer de la charge mentale » publié aux éditions de L'Homme, un coffret de cartes. Merci à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci tout particulier à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous partage cette citation de Margaret Thatcher. Il faut parfois mener une bataille plusieurs fois pour la gagner. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.